Pie XI et Hitler. La hiérarchie ecclésiastique a toujours observé le principe politique d'abord, et les catholiques allemands étaient donc bien dans le droit fil de la tradition en constituant le parti du centre ainsi que le parti populaire bavarois. Le problème qui s'était posé à eux était d'une donnée fort simple. Minorité religieuse, fortement groupée au point de vue politique, il pouvait s'imposer au Parlement en déplaçant son centre de gravité. Avec cet esprit de méthode qui caractérise l'Allemand, les catholiques s'organisèrent donc d'abord en partis politiques afin de pouvoir exister et se développer en tant qu'Église. Ce furent les cadres de l'administration ecclésiastique qui servirent de cadres politiques. Paroisses, diocèses furent d'abord, non pas dans l'ordre des fins mais des moyens, des organisations électorales, et toutes les œuvres allemandes, pour être comprises, doivent être envisagées sous cet angle. Rome suivait d'un œil favorable cette activité politico-religieuse, car elle fournissait au Saint-Siège le moyen d'agir sur un gouvernement essentiellement protestant, et l'on sait avec quelle maîtrise Léon XIII sut l'utiliser. Dans les milieux romains, on finit même par concevoir pour l'organisation de l'Église d'Allemagne une admiration excessive, la citant en exemple aux catholiques des autres pays. Tout n'était pas parfait chez les Allemands, loin de là, et certains de leurs évêques s'en préoccupaient. Il suffisait, pour s'en rendre compte, d'assister à quelques-unes de leurs grandes manifestations, surtout à leur Katholikentag annuel. Pour beaucoup d'entre eux, être catholique signifiait seulement appartenir au parti catholique et observer la consigne électorale. De plus, l'organisation politico-religieuse qu'était l'Église d'Allemagne supposait que les catholiques ne fussent pas divisés sur d'autres questions, par exemple sur la question constitutionnelle. Il est vrai que l'hégémonie de la Prusse protestante maintenait chez eux l'unité religieuse et partant l'unité politique. Les catholiques, au moment où la guerre de 1914 éclata, constituaient un pourcentage important de la population du Reich en raison non seulement d'une natalité plus forte que chez les protestants, mais de l'immigration. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'industrie allemande avait pris un tel développement qu'elle faisait appel à la main-d'œuvre étrangère dans de fortes proportions. En Westphalie, par exemple, dans le bassin de la Ruhr, les Italiens et les Polonais étaient au nombre de 600 000, et les autorités allemandes cherchaient, en leur consentant de grands avantages, à leur faire prendre la nationalité allemande. Et c'est ainsi que, dans cette région presque entièrement protestante encore aux environs de 1880, les catholiques formaient à la veille de la guerre de 1914 plus de la moitié de la population. Cette situation, qui avec le temps aurait pu devenir très avantageuse, n'avait pas encore modifié profondément la situation politique de l'Église en Allemagne, où le catholique était toujours un citoyen de seconde catégorie. Non seulement l'administration impériale, qui constituait l'armature du Reich, lui demeurait en fait fermée, mais même dans les administrations locales, surtout dans les pays d'Empire, il ne pouvait prétendre en première place. Le Prussien entendait demeurer maître chez soi, c'est-à-dire dans le grand empire protestant. D'où l'importance que la question religieuse avait conservée en Allemagne et l'aversion des catholiques pour le Prussien, l'administration impériale et l'empereur lui-même, ce dernier et surtout l'impératrice, le leur rendant avec usure. Pour un Allemand 100%, le Reich ne commence qu'au Rhin, frontière de deux civilisations, et tout citoyen allemand membre de l'Église romaine et, par conséquent, plus ou moins frotté de civilisation latine, est un renégat. Ce serait méconnaître le véritable caractère de la guerre de 1914 que de ne pas la tenir pour une guerre religieuse, qui devait porter un coup mortel à l'Église catholique et assurer l'hégémonie du protestantisme dans le monde. Le clergé catholique allemand ne s'y était point trompé, et certains de ses membres, peu nombreux il est vrai, avaient eu le courage de blâmer publiquement l'invasion de la Belgique. Quant à ceux à qui les manifestations anticatholiques de l'armée allemande lors de la mobilisation n'avaient pas ouvert les yeux, ils ne purent ne pas comprendre le vrai sens de la Grande Guerre lorsqu'ils entendirent les protestants allemands prier jusqu'au jour de la débâcle définitive pour le grand empire protestant et pour notre empereur, l'empereur protestant. Enfin, depuis l'armistice, tous ont pu maintes fois constater que la Prusse, pour les protestants du monde entier, demeurait l'État protestant par excellence, nécessaire aux églises réformées. La défaite des armées du Reich, qui aurait dû causer la fin de l'hégémonie prussienne, ne pouvait donc être, pour les catholiques allemands, qu'un événement heureux, dont on ne devait pas laisser perdre les promesses. Ce qu'il fallait empêcher avant tout, c'était le retour des Hohenzollern, qui eussent bientôt fait, grâce à la fidélité de toute l'administration impériale, de rétablir la fortune de la Prusse en même temps que la leur, et c'est pourquoi le séparatisme chez les Rhénans et le fédéralisme chez les catholiques des autres États allemands eurent de si chauds partisans. Quant à la constitution républicaine de Weimar, le centre s'en fit, sans hésitation, le défenseur décidé. Il ne faut pas en effet juger du patriotisme allemand d'après le nôtre. L'unité du Reich est l'œuvre de la Prusse, et a été faite au détriment de ces Allemagnes que tout Allemand catholique regrette. En Allemagne, tout a été recouvert par le prussianisme, qui a pénétré jusque dans les intérieurs allemands, car la famille elle-même a été prussianisée, et les Allemagnes ont cessé de vivre dans le Reich, alors que notre unité est faite de tous les particularismes locaux. On comprend donc avec quelle énergie les catholiques allemands s'opposèrent au mouvement hitlérien, qui, aux yeux de tous, avait pour but l'unification complète du Reich, et par conséquent l'hégémonie totale de la Prusse grâce à une restauration des Hohenzollern. Nul n'ignorait en effet que le Führer avait été lancé par Ludendorff, et qu'il n'existait que par la volonté du grand état-major et de la grande industrie, l'un et l'autre passionnément dévoués à la famille impériale qui avait fondé leur puissance. Les Rhénans firent tout au monde pour montrer au gouvernement français que l'évacuation anticipée de la rive gauche du Rhin donnerait au mouvement nationaliste allemand une force irrésistible, que ce serait, à bref délai, l'établissement de la dictature de Hitler et, par conséquent, la guerre de revanche. Quelques-uns, se faisant encore illusion sur les intentions du Quai d'Orsay, firent même le voyage de Paris, espérant mieux se faire comprendre de vive voix. On sait que cette évacuation anticipée de la Rhénanie, que Foch, peu de temps avant sa mort, avait qualifié de crime contre la patrie, eut pourtant lieu le 30 juin 1930, et que l'entrée massive des députés nationaux socialistes au Reichstag ne tarda pas à donner pleinement raison à nos amis Rhénans et à notre grand maréchal. Les catholiques allemands ne perdirent pourtant pas courage. Ils se sentaient une force électorale demeurée capable d'empêcher le Führer d'arriver au pouvoir par la voie légale ou de tenter un coup de force. Mais la lutte serait chaude. On le savait. On pensa donc d'abord à dissiper tout malentendu entre les fidèles en établissant avec fermeté la doctrine. Dès octobre 1930, l'évêque de Mayence déclara que le programme du Parti national-socialiste contenait des propositions inconciliables avec la doctrine et les principes catholiques. Et le 31 décembre, le cardinal Bertram, archevêque de Breslau et primat d'Allemagne, ajoutait « Nous, chrétiens et catholiques, ne connaissons pas de religion de race, mais uniquement la révélation du Christ, valable pour le monde entier, et qui a doté tous les peuples du même trésor de vérité révélée, des mêmes lois et des mêmes remèdes surnaturels. Nous, catholiques, ne connaissons pas d'Église nationale. » Enfin, à la suite du mandement des évêques de la province de Cologne, en date du 5 mars 1931, de nombreuses condamnations ecclésiastiques avaient frappé les hitlériens récalcitrants. Au début de l'année 1932, les catholiques allemands ne considéraient nullement la partie comme perdue, mais au printemps, on put remarquer chez leur chef un certain flottement. C'est qu'on leur avait fait savoir que le pape était personnellement favorable à Hitler. Que Pie XI éprouva de la sympathie pour Hitler, voilà qui ne doit pas nous surprendre. Le pape n'est entré en contact avec les hommes qu'au soir de sa vie. Jusque-là, il avait été bibliothécaire de l'Ambroisienne à Milan, puis de la Vaticane, et parle toujours avec émotion de ces longues années au cours desquelles il s'est adonné à la science pure, selon sa propre expression. C'est donc un intellectuel, et comme tous les intellectuels italiens de sa génération, profondément germanophile. Pour lui, l'Europe ne peut retrouver son équilibre que dans l'hégémonie de l'Allemagne. En Pologne, où il avait été envoyé en mission sous Benoît XV par le cardinal Gaspari, il soutint les intérêts allemands, et dès le début de son règne, il a montré combien il comptait peu sur la France pour établir l'ordre en Europe et affirmer ses sympathies pour l'Allemagne ainsi que pour la République soviétique. Avec cette dernière, malgré toutes ses avances et les missions qu'il envoya, le pape n'a essuyé que des échecs. Reste l'Allemagne. On conçoit la sympathie du pape pour le Führer. Au Vatican, on avait pendant longtemps pensé en effet à changer le centre de gravité du Reich grâce à l'Anschluss. La Compagnie de Jésus travaille ouvertement dans ce sens, surtout en Autriche. Or, l'on sait à quel point Pie XI compte sur elle pour faire triompher ce qu'il appelle sa politique. Ce qu'on voulait empêcher, c'était l'hégémonie de la Prusse protestante, et puisque l'on comptait sur le Reich pour dominer l'Europe, ce qui faisait écarter le fédéralisme des Allemagnes, on cherchait à constituer un Reich où les catholiques fussent les maîtres. Mais l'Anschluss, surtout depuis la mort de l'énigmatique Mgr Seipel, compte en Autriche des adversaires décidés et appuyés par Mussolini. Hitler, qui n'avait rien de prussien et qui était catholique, au moins de naissance, n'apportait-il donc pas la solution du problème? Mais Pie XI n'allait-il pas se heurter à ce parti du centre allemand qui n'avait pas plus fléchi devant Léon XIII que devant Bismarck? Qu'allait faire aussi ce clergé allemand qui avait tenu tête à Pie X, qui ne manquait pourtant pas de volonté? La partie était pourtant gagnée d'avance pour le Vatican. Si, au point de vue doctrinal, le pape n'avait pu empêcher les évêques de condamner l'hitlérisme, il demeurait libre d'appliquer au clergé allemand le droit de l'Église et de lui refuser l'autorisation de s'occuper de politique, causant ainsi l'effondrement du centre, adversaire irréductible du Führer. Comment, en effet, en admettant que cela fût possible, les catholiques eussent-ils pu, en pleine lutte, se réorganiser et refaire en quelques semaines ce qui avait demandé 50 ans d'efforts, moins que partout ailleurs. En Allemagne, on improvise. Les évêques allemands déposèrent donc les armes dès mars 1933. Réunis à Fulda, ils profitèrent du discours de Hitler à Potsdam pour déclarer qu'il fallait reconnaître que le plus haut représentant du gouvernement du Reich, qui est en même temps le chef autoritaire du mouvement national-socialiste, a fait des déclarations publiques et solennelles qui tiennent compte de l'inviolabilité de la doctrine catholique ainsi que de l'œuvre et des droits immuables de l'Église, et qui donne, de la part du gouvernement du Reich, l'assurance formelle que les traités conclus par les pays allemands avec l'Église catholique conserveront leur pleine et entière valeur. Sans rapporter la condamnation contenue dans nos mesures antérieures, ajoutaient les évêques, contre certaines erreurs religieuses et morales déterminées, l'épiscopat croit pouvoir penser avec confiance que ces mesures générales d'interdiction et d'avertissement n'ont plus lieu d'être considérées comme nécessaires. Les membres du centre et du Parti populaire bavarois, ce dernier était le plus compromis dans la lutte contre l'hitlérisme, essayèrent pourtant de lutter en gagnant du temps. Ils firent leur soumission complète au Führer, ils le firent même avec ce manque de dignité qui caractérise l'Allemand, qui sent venir la défaite. Mais Hitler se montra inflexible, car ces deux grands partis politiques, surtout s'ils avaient le temps de se réorganiser en se passant du clergé, pouvaient redevenir dangereux. Il résolut donc de traiter directement avec le pape afin d'aller vite et d'enlever ainsi à ses adversaires tout espoir. Mussolini lui avait montré l'exemple, et il n'avait qu'à mettre ses pas dans ceux du Duce. Celui-ci avait d'abord montré moins que de la sympathie pour le Vatican. Hitler, lui, s'en prit à ce qui de l'Église était à sa portée, les évêques, les prêtres, les œuvres catholiques. Et le clergé, qui a reçu des ordres ou connaît les sympathies personnelles du pape pour le Führer, se tait. Aux prêtres blessés, leurs évêques conseillent même de ne pas se montrer en public tant que leurs plaies ne seront pas entièrement cicatrisées. De ces violences, Hitler tirera argument. Il ne peut contenir ses troupes et il faut trouver au plus tôt une solution. Fort Papen part donc pour Rome. Cet homme au passé si lourd, transformé en pieux pèlerin, est chargé de conclure un concordat avec le pape. Lui aussi devra se conformer en tout point à la conduite de Mussolini. Un haut prélat romain résumait ainsi toute la stratégie qui permit à ce dernier de faire aboutir le traité du Latran et le concordat qui en est la conclusion d'après le pape lui-même. Le Duce a commencé par faire dire au pape qu'il n'accepterait aucun intermédiaire, car il redoutait les commissions compétentes. Puis, il a d'abord refusé au pape tout ce qu'il était bien décidé à lui concéder. Après quoi, lorsque la rupture était prête de se produire, brusquement il a dit au pape: « Vous êtes le maître en ces matières et je m'incline devant votre volonté. » Et Pie XI, satisfait de cette reconnaissance de sa souveraineté spirituelle, n'a pas refusé à Mussolini ce à quoi ce dernier tenait le plus. Que l'Église ne soit pas une force capable de s'opposer au fascisme, même au point de vue doctrinal. On comprend dès lors que le Duce ait, par exemple, consenti à ce que les curés tiennent de nouveau les registres de l'état civil, puisqu'on lui concédait qu'il n'y aurait pas en Italie d'organisation catholique, sous le nom d'Action catholique, qui est pourtant la grande idée du pontificat. mais Mussolini, le traité et le concordat une fois signé, dut tenir compte de l'anticléricalisme, fort vif en Italie, et se hâta de prononcer au Sénat un discours extrêmement insolent pour le pape. Ce dernier se trouva désarmé. Le traité du Latran n'avait rien d'un acte international, et les autres États ne pouvaient en aucune façon soutenir le Saint-Siège sans risquer de se brouiller avec l'Italie, qui faisait preuve de velléité guerrière. Quant aux cardinaux, qui jusqu'à un certain point représentent le monde chrétien, ils ne purent, puisqu'ils avaient été complètement tenus en dehors des négociations, qu'écouter avec un froid respect les plaintes du souverain pontife qui avait brisé, de ses propres mains, la seule arme dont il pouvait user à l'égard de l'Italie. La question romaine demeurait sans solution. Hitler n'avait qu'à suivre l'exemple de son aîné en dictature. On a été jusqu'à dire que le concordat conclu entre le chancelier et le pape avait assuré à l'Église catholique une situation privilégiée en Allemagne, mais qu'importe ce que Hitler a signé. Le centre est à terre, car aucun ecclésiastique n'a plus le droit, même à titre de citoyen, de s'occuper de politique, et son chef, Mgr Kaas, était contraint d'assister à la signature du concordat qui consommait la ruine du parti catholique allemand, qui seul aurait pu lutter contre le Führer. Voilà la seule chose qui compte. Dans un avenir prochain, on pourra constater, même à l'étranger, à quel point l'Église catholique d'Allemagne a été de ce fait réduite en servitude. Les sévices continuent contre les évêques, les prêtres, les œuvres catholiques, et les discours du chancelier ou des membres de son gouvernement ont dû enlever leurs illusions aux germanophiles les plus déterminés de la cité du Vatican. Mais le Führer, comme le Duce, ne doit-il pas tenir compte de l'opinion publique, anticléricale en Allemagne, anticatholique en Allemagne? Après avoir paru trop concédé au pape, il est lui aussi obligé de montrer au grand jour son astuce, afin d'en tirer prestige. Mais, et c'est ce qu'il y a de plus grave pour l'avenir du catholicisme en Allemagne, les consciences sont profondément troublées. Comment, en effet, expliquer l'adhésion de toute la hiérarchie ecclésiastique à l'hitlérisme, si solennellement condamnée il y a seulement quelques mois? On a bien essayé d'expliquer, surtout en France, car en Allemagne on paraît bien résigné à ne plus rien comprendre, que le Saint-Siège n'avait pas accepté la doctrine qui demeurait condamnée, mais bien Hitler, parce qu'arrivé au pouvoir. Le Saint-Siège nous a-t-on dit, n'a-t-il pas traité avec Napoléon, qui se réclamait de la Révolution dont les principes, ceux de la Déclaration des droits de l'homme, sont et demeurent condamnés? Toute comparaison est boiteuse, mais celle-ci ne tient pas debout. Napoléon offrait au pape, après un effroyable tourment de 10 années qui n'avait laissé que des ruines, de rétablir le culte, et le faisait non pas en tant qu'héritier de la Révolution, mais comme le restaurateur de l'ordre. En Allemagne, il n'en était pas de même. Il s'agissait d'obtenir du pape de briser la grande organisation politico-religieuse qui barrait la route au dictateur, ou en tout cas, ce dernier aurait dû compter. L'Église existait, fort puissante, et les catholiques avaient même fourni à plusieurs reprises, au moins en partie, l'équipe gouvernementale. Il n'était donc pas question de reconstruire sur des ruines, mais bien de détruire ce qui avait fait la force de l'Église d'Allemagne et lui avait permis non seulement de subsister, mais de se développer. Si la comparaison entre Napoléon et Hitler est inexacte, il est impossible par contre de ne pas reconnaître que le Saint-Siège se trouve à l'égard du chancelier dans la même situation qu'à l'égard du Duce. En Allemagne comme en Italie, le pape a brisé la seule arme dont il disposait. En Italie s'est constitué non pas un grand État catholique, qui devait servir d'exemple au monde chrétien comme l'avait annoncé Pie XI lui-même, mais bien un état d'un paganisme jeune et sûr de soi. En Allemagne, le Reich sera plus protestant, c'est-à-dire plus anticatholique qu'il ne le fut jamais. L'unité de l'Allemagne, en effet, postule, exige l'hégémonie de la Prusse. Pour tout Allemand, c'est là un axiome. Or, la Prusse est protestante, et l'échec de la politique du pape est certain. Ainsi s'achève, Pie XI et Hitler, un article anonyme paru dans Mercure de France, le 15 janvier 1934.